Vous écoutez, on lit pour vous.
Myriam Baudouin dans l'univers de Jean-François Sénéchal, d'art et de vulnérabilité. Un texte de Myriam Baudouin paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Quelques jours avant le congé de Noël, j'ai la chance d'aller à la rencontre d'un écrivain québécois que j'admire. Prendre un moment pour aller découvrir sa tanière d'écriture, m'inspirer de ce qui l'inspire. À 10h du matin, dans le quartier où réside Jean-François Sénéchal, plusieurs dames en talons hauts, manteaux noirs et café en main déambulent devant les vitrines d'élégants magasins qui ne tarderont pas à ouvrir. Naïve, je me moque de moi-même et lève les yeux au ciel. M'attendais-je à reconnaître l'univers du roman « Le boulevard » Tomber sur Chris, cet incroyable personnage de l'auteur? Beau duplex en briques rouges datant des années 1930, terrain adjacent à celui d'une église. Tandis qu'une fine couche de neige couvre les branches des érables, je crois entendre par les vitraux des cantiques de Noël chantés par une chorale d'enfants. Je vérifie l'adresse. Oui, c'est bien cela, le 228, la porte vitrée décorée d'une couronne. Une femme apparaît, referme la porte derrière elle, puis remonte son col de fourrure blanche. Découvrant son visage, à moins d'un mètre d'elle, je lui lance gauchement « Une qui sort, une autre qui rentre ». Nervosité sans doute, maladresse d'une introvertie, d'un face-à-face sur un trottoir. Elle me sourit et me répond gentiment « C'est ici, il t'attend ». Bien sûr. Je sonne et sans tarder, habillée de jeans et d'un gros chandail noir, Jean-François Sénéchal m'ouvre. « Pourquoi m'as-tu choisi ?» me demandera-t-il simplement pendant qu'il me fait visiter les pièces de son 6,5 tout en boiserie. Au plafond, une bibliothèque dans chaque pièce, des plantes de toutes sortes, une multitude de tableaux, dont une œuvre de son frère Martin. J'explore l'appartement de mon hôte, j'entre dans le bureau, la cuisine, la chambre à coucher, le salon, partout sauf dans une seule pièce, la chambre de sa fille. « Vaut mieux ne pas ouvrir la porte », me souffle-t-il tout bas avant de m'adresser un clin d'œil. Il me désigne une chaise. J'en profite pour lui répondre. J'ai souhaité faire l'entrevue avec Dany Laferrière, mais il était indisponible. Nous rions, l'ambiance est détendue, j'ai presque l'impression de visiter un bon ami. Je le rassure en lui précisant que je suis très admirative de son talent, que ses romans et ses albums m'habitent longtemps après la lecture. Je lui raconte aussi que je viens tout juste de terminer Chris, un vrai coup de cœur. À mes côtés, l'immense arbre de Noël est parfaitement conique. Je le scrute un instant, le temps pour Sénéchal d'éteindre sa sonnerie de téléphone. Non, c'est juste un très beau sapin posté près d'une large fenêtre à guillotine. Je pose sur la table ronde ma feuille saturée de questions rédigées pour l'entretien. J'en aurai sans doute besoin plus tard. Pour l'instant, c'est le préambule, on jase de tout et de rien, du logement en tant que tel, du charme et des inconvénients des vieux bâtiments. Jean-François me raconte qu'il a dû se départir de beaucoup de choses, mais surtout de livres, lorsqu'il s'est séparé et qu'il a quitté la maison familiale il y a quelques années. Il me parle un peu de son ado, qui aime le cinéma comme sa mère, de la garde partagée, du fait qu'on ne se remet jamais tout à fait d'un divorce. « Tu veux un café? J'en fais du bon, » propose-t-il. Derrière lui, la cuisine, dans laquelle j'aperçois sa machine espresso installée sur une ancienne table de machine à coudre. Pour se préparer une tasse de café, il doit sans doute se pencher considérablement. Les splendeurs et désavantages des antiquités. Au bout du logement, vers le jardin, une étroite pièce en extension expose une table tassée contre des fenêtres. Son deuxième espace pour écrire, mentionnera-t-il plus tard. Des fois, j'ai besoin de lumière, et là, même quand le ciel est gris, il y fait clair. On bavarde légèrement du temps des fêtes, de ses dernières rencontres scolaires, de la COVID dont il vient de guérir. Je me sens bien. C'est beau chez Jean-François. C'est doux d'apprendre à le connaître. Sénéchal tourne légèrement le pot de sa plante du missionnaire qui est au centre de la table, comme pour guider ses feuilles vers la lumière. « Je ne prendrai pas de café, faut commencer l'entrevue et pourquoi pas par le commencement, la genèse de l'écriture. Jean-François me tend un très vieil exemplaire du recueil des Fleurs du Mal qu'il a bouleversé lorsqu'il était adolescent. À 15 ans, entame-t-il, j'habitais dans le sous-sol de mes parents et je transcrivais les vers des poètes maudits sur les murs. Je tripais sur le gothique et passais des soirées à composer des poèmes, penchés sur une table basse couverte de chandelles. Il rit, passe sa main dans ses cheveux sombres, poursuit. Ce recueil-là, je l'ai trouvé dans une boîte de grands classiques qui appartenait à mon père. Je suis un jour tombée sur ce coffre au trésor. Il faut dire qu'il y avait des livres partout chez moi. On n'était pas riche du tout, mais mes parents, tous les deux enseignants, étaient accros à la culture. Ils nous emmenaient au théâtre, dans des expositions, nous faisaient rencontrer plein d'artistes. Mon père était aussi un collectionneur d'art. D'ailleurs, ajoute-t-il en désignant le mur à notre droite, ce sont des œuvres de sa collection. Elles sont de Marc Séguin. Je me lève d'un bond. Les yeux écarquillés, sans mots, je les examine. Jean-François devine mon émerveillement, alors il me nourrit, m'expliquant que ce sont tous des dessins et des estampes créés au début de sa carrière, un peu avant les années 2000. Il me confie ensuite que lorsqu'ils étaient plus jeunes, Marc venait parfois souper à la maison, comme plusieurs autres artistes. Un soir, le père de Sénéchal, un original, se plaît-il à préciser, avait rassemblé un tas de feuilles dans la cuisine pour créer une ambiance forestière propre à une dégustation de gibier chassé et rapporté par Séguin. Marc Séguin, un artiste qui m'habite autant que l'œuvre de Sénéchal. Pour ses toiles, oui, les très grands formats qui m'ont hypnotisé dans des galeries et musées, et pour tous ces romans que j'ai dévorés. Particulièrement Hollywood. Je n'ai pas à consulter ma feuille, Jean-François est volubile, il me fait le récit de certaines époques de sa vie et tout ce qu'il me narre m'intéresse. S'il compose de la poésie depuis une trentaine d'années, il ne veut pas en publier, c'est non seulement trop intime, mais il n'en ressent pas le besoin. Il préfère traiter des thèmes qui l'émeuvent et l'intéressent avec des romans et des albums. Récemment, il a adoré collaborer avec la très connue artiste japonaise Chiaki Okada, laquelle a illustré son premier album intitulé « Je voudrais te dire ». Il va sans dire, le titre est aussi touchant que le renard d'eau à tête basse qui peine à gérer le deuil de sa grand-mère. Son inspiration pour ce premier album pour enfants? Pendant l'époque très marquante de la COVID, Jean-François a surtout été touché par les personnes âgées qui mouraient sans pouvoir faire leurs adieux. L'histoire rédigée, elle a été illustrée, publiée et elle a rapidement été vendue dans 9 pays, ce qui confirme combien la rencontre entre Sénéchal et Okada était destinée au succès. Vous écoutez Myriam Baudouin dans l'univers de Jean-François Sénéchal, d'art et de vulnérabilité. Un texte de Myriam Baudouin, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Écrire n'est pas vital, me surprend Jean-François un peu plus tard. C'est plutôt un élan que je ressens comme d'autres élans. Être un bon père, un amoureux, rédiger des critiques pour des romans jeunesse, rencontrer mes lecteurs dans les écoles, participer à des collectifs, réfléchir aux pratiques de la lecture et de l'écriture. Anthropologue de formation, il n'avait jamais espéré rêver devenir écrivain. N'ayant pu terminer sa thèse portant sur Haïti en 1991 à cause d'un coup d'État, il se retrouvait chez lui sans le sou, surtout désœuvré. Alors, cela s'est produit simplement. Sénéchal a ressenti l'élan de se mettre à écrire. Et cet élan l'a poussé à aller au bout de nombreux projets littéraires qui, notons-le, ont été couronnés de plusieurs prix, dont le prix littéraire du gouverneur général pour « Les avenues ». « Je pourrais faire plein d'autres métiers », raconte l'auteur, « mais pour le moment, c'est l'écriture qui m'accompagne. Ça me permet de traduire mon intérieur, d'atteindre des pans très profonds. C'est aussi à travers les œuvres que les autres découvrent des facettes de nous-mêmes, comme nos rapports à l'amour, aux autres, à l'amitié. » Et il dit juste, « Les romans de Sénéchal mettent tous en lumière la vulnérabilité humaine, celle qui fait que les relations sont toujours très signifiantes. L'auteur aime créer des personnages marginaux, donner une voix au laissé pour compte, comprendre les liens qui se tissent entre les individus et leur communauté. Fouiller notre rapport au monde qui se vit autant comme un besoin qu'un enjeu. Je ne peux taire ma curiosité. À quand une prochaine œuvre apparaître? L'espoir sans la terre sortira à l'automne 2024, me renseigne-t-il en froissant tout à coup son visage à deux mains. Un roman difficile à écrire, sans doute le plus laborieux, m'explique-t-il. 200 pages en plus d'une galerie de personnages qui ont dû être abandonnés, un ton difficile à trouver, une longue période de jachère, puis encore de la réécriture. L'auteur est justement en train de terminer les dernières corrections avec son éditrice. Ce sera un livre sur la vie de migrants qui luttent contre leur expulsion, les liens qu'ils tissent avec les gens de la terre d'accueil, leur interdépendance. Il s'agit d'un roman social, réaliste, humaniste, me précise Sénéchal, mais surtout une réflexion sur le rapport à l'autre, encore une fois, parce que ma formation d'anthropologue n'est jamais très loin de mon imaginaire. Si Jean-François ne pense pas à son public lorsqu'il écrit, ses romans s'adressent avant tout aux jeunes parce qu'ils parlent d'eux. Les adolescents l'intéressent, leur vulnérabilité, leurs quêtes initiatiques, le regard qu'ils portent sur la société dans laquelle ils vivent. Il aime réfléchir au cheminement individuel et collectif des ados, combien ils ont toujours, comme nous tous d'ailleurs, besoin des autres dans leur recherche d'eux-mêmes. Même si pour chacun de ses projets littéraires, il a l'intention, le souci de se renouveler, ce sont les mêmes thèmes qui reviennent, tout en étant abordés sous des angles différents. C'est ce qui s'appelle construire une œuvre, n'est-ce pas? Puisque ces personnages évoluent au sein d'une société qui leur est très importante, je demande à l'auteur de me définir son rapport à sa propre communauté. Il m'avoue être plutôt solitaire, tout en étant ému par l'énergie qui se dégage des collectivités, aussi par les gens qui y trouvent du réconfort. Le temps file. Le gris de la pièce de rallonge change au plus clair. Je ne peux pas quitter Sénéchal sans lui demander si une suite est prévue aux albums franchement extraordinaires que sont ceux de « L'enquête secrète », dont j'ai lu et relu les trois tomes à mes filles. « Non, me confirme-t-il, rien de prévu pour le moment. » C'était tout simplement une invitation de la part de son ami photographe et de son conjoint. Ils ont eu envie de faire un projet collectif, de parler de leur quartier, le mien, et des Vertes du Noix. D'ailleurs, ce sont leurs propres enfants qui sont les héros des albums photos. « Pas de nouveaux textes cachés dans un tiroir », réitère-t-il, touché par ma demande. Pourquoi pas un tome de Noël que je lui lance à la blague? Non, non, me confirme l'auteur tout sourire. Jean-François continuera à écrire sur ce qui le touche, l'intéresse, à suivre son élan du moment. Il apprécie choisir les personnes avec lesquelles il travaille, accepter des collaborations avec des gens compétents et de confiance. J'ai besoin de me sentir libre. Être travailleur autonome me convient parfaitement. Sénéchal me confie que tant qu'il peut mener sa vie de façon indépendante, il n'a pas de grands rêves en tête, ni de faire le tour du monde, ni de changer de vie du tout au tout. Sa liberté, il la vit au quotidien, puisqu'il fait ce qui lui plaît. Routinier, il aime se lever tôt pour siroter son café, puis choisir une musique qui l'inspire, enfin s'asseoir à son bureau pour écrire jusqu'en début d'après-midi. Sans oublier sa marche quotidienne en soirée, celle-là suivie d'un moment de lecture d'ouvrages philosophiques. Et ce, 5 jours sur 7, presque 12 mois par année. Bien sûr, en plus d'écrire d'autres romans, il aimerait sans doute publier des essais et même rédiger des textes pour le théâtre. Mais il ne promet rien à personne, ni même à lui-même. Jean-François ne veut pas se donner la contrainte d'être écrivain ad vitam aeternam. Il m'explique. Je suis écrivain quand j'écris, mais quand je n'écris pas, je ne suis que moi. Je ne m'obligerai jamais à l'être si je n'en ressens plus l'envie. Écrire, c'est un métier. C'est se donner les moyens d'aller au bout d'une démarche et de publier uniquement lorsqu'on juge que notre livre est terminé. Ça fait 3 ans que je travaille sur mon roman. Bientôt, je vais devoir lâcher prise et en être satisfait. Silence, un premier depuis que je suis arrivée. Je reconnais cet état de doute qui hante les écrivains lors des dernières relectures de manuscrits, avant la séparation définitive avec son œuvre. Puis il reprend. D'un point de vue existentiel, je suis moi, mais comme nous tous, je suis un être complexe, construit culturellement. Jamais unidimensionnel, toujours en évolution. Je cumule donc plusieurs autres rôles, activités, responsabilités. Je ne suis pas né écrivain, comme personne ne naît plombier. Moi, Jean-François Sénéchal, je suis aussi un mélomane, un père, un ami, un voyageur, et j'aime tout autant toutes ces autres sphères de ma vie. Même que des fois, je suis tanné de parler de moi. Nous nous esclaffons. Encore. L'entretien tire à sa fin. J'arrête l'enregistrement, glisse mes feuilles dans mon sac et Jean-François me suit dans le couloir. Quelques mots sur une toile qui attire mon œil, du blanc, du noir et un jet de rouge, comme si une baie avait fait jaillir son jus sur un paysage monochrome. Je descends les marches étroites qui grincent, la main sur la rampe. Finalement, j'ai beaucoup d'affinités avec Jean-François. J'aime tout ce qu'il aime, particulièrement Chris, un personnage qui n'a pas fini de m'émouvoir. Et de se faire connaître puisque les droits pour Le Boulevard ont été vendus au cinéma et qu'une version théâtrale paraîtra à l'automne 2024. Jean-François Sénéchal referme la porte derrière moi. La couronne retentit sur la vitre. Je retourne dans mon quartier, celui des enquêtes secrètes, prête à rédiger le portrait d'un être sensible qui a de bien beaux élans. C'était Myriam Beaudoin dans l'univers de Jean-François Sénéchal, d'art et de vulnérabilité. Un texte de Myriam Beaudoin, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires.
Marie-Louise Gay, Cueillir l'émerveillement des enfants. Une entrevue réalisée par José-Anne Paradis, parue le 5 septembre 2023 dans la revue Les Libraires. Depuis les années 1980, Marie-Louise Gay met son talent au service d'histoires qui parcourent le monde et mettent en scène des enfants attachants qui s'épanouissent au gré des défis qui se posent devant eux, qui grandissent au contact des nombreuses découvertes qu'ils font. Toujours avec douceur et en fuyant les détours faciles, l'œuvre de cette illustratrice et autrice native de Québec s'inscrit dans l'histoire de la littérature jeunesse québécoise comme un incontournable. Stella, Sam, Sacha, vos personnages sont chaque fois des enfants débordants de vie, de douceur, d'émerveillement. Qu'est-ce qui vous inspire de tels personnages et sujets? Mon inspiration vient de l'observation minutieuse du monde qui m'entoure. Je prends des notes, je gribouille des esquisses dans mes calepins. D'abord, les souvenirs lointains de mon enfance. Ensuite, bien sûr, les images de mes enfants lorsqu'ils étaient petits ressurgissent. Et aussi, l'enfant qui s'accroupit pour examiner une fourmi, une coccinelle ou une abeille qui bourdonne au cœur d'une fleur. L'enfant qui court à toute vitesse parce que ses souliers neufs ont des ailes. L'enfant qui parle à un chat. L'enfant qui met un orteil à la mer et s'enfuit quand une vaguelette lui lèche le pied. L'enfant qui demande « D'où viennent les nuages? D'où vient le vent? » L'enfant qui rit aux éclats et l'enfant qui a un grand chagrin. Les enfants sont partout. Il suffit de voir le monde avec leurs yeux. Parlez-nous de la création du personnage de Mustapha, un jeune réfugié mis en scène dans un album éponyme. Est-ce parce que vous avez croisé la route de certains réfugiés à Belgrade? Avez-vous leur résilience et fatigue que vous avez pu insuffler à votre œuvre une telle délicatesse? Deux événements m'ont inspiré l'histoire de Mustapha. Tout d'abord, lors d'un voyage en Serbie, j'ai vu dans un des grands parcs de Belgrade des centaines de familles de réfugiés allongées ou assis sous des tentes de fortune attendant, la mine sombre, le prochain transport vers un autre pays ou la prochaine étape de leur long voyage. Mais ce qui m'a vraiment touché et impressionné, ce sont les enfants qui jouaient, riaient, se pourchassaient. Ce qui m'a amené à réfléchir à la résilience des enfants qui allaient découvrir et explorer un nouveau pays, apprendre une nouvelle langue et de nouvelles façons de faire. Et que ce serait peut-être plus facile pour eux que pour leurs parents. C'est ce que je voulais raconter, cette découverte et cette adaptation. Mais aussi, il y a eu mon expérience en tant que petite fille qui arrive dans une nouvelle école où personne ne comprend ce qu'elle dit et qu'elle ne comprend rien de ce que les autres lui disent parce qu'ils ne parlent pas la même langue. J'avais perdu tous mes repères. Par ailleurs, j'ai exploré plus à fond cette expérience personnelle d'anxiété et d'insécurité dans mon nouvel album, La Marelle. Justement, dans La Marelle, vous mettez en scène Ophélie, une petite fille qui déménage souvent. Son univers immédiat l'inquiète. Qui prendra soin du chien du voisin? Comment se fera-t-elle de nouveaux amis alors qu'elle ne parle pas la langue des autres? Les sorcières Corneille qu'elle entend lui veulent-elles du mal? Aimera-t-elle sa nouvelle maison? Le sujet de l'adaptation y est finement mené. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire qui commence sombrement, mais se termine tout en couleurs et en bonheur? Le tout ne réfère-t-il pas à votre propre déménagement durant votre enfance? J'ai eu une enfance de nomade. Ma famille déménageait presque tous les ans, de ville en ville et de province en province. Donc il fallait changer d'école, de langue, d'amis, d'environnement et abandonner des animaux de compagnie adorés. Donc une adaptation constante. J'ai voulu écrire sur mon enfance et cette résilience qu'ont les enfants face aux défis bien réels de la vie. Et je me suis rappelé soudainement combien la magie, l'imagination et les superstitions occupaient une place importante dans mon enfance. Je faisais des vœux lorsque je voyais une étoile filante. J'évitais de marcher sur les fissures des trottoirs. Je croisais mes doigts pour la chance. J'inventais des histoires qui me rassuraient lorsque j'avais peur ou que j'étais triste, et ainsi de suite. J'ai réalisé que je pouvais explorer cette magie et la semer ici et là dans mon histoire, tout en la faisant basculer vers la fiction. Ce qui me plaît le plus dans le processus créatif, c'est de me laisser surprendre par des revirements inattendus, des émotions étonnantes, une fin saisissante. Votre carrière perdure sans sembler s'essouffler. Depuis 1984, vous avez accumulé une foule de prix, nominations et récompenses pour votre travail. Qu'est-ce qui, selon vous qui l'avez vu de près, a évolué dans le milieu de l'album au Québec depuis vos débuts dans la profession? Après s'être abreuvé pendant longtemps aux albums d'images et aux bandes dessinées créées en France et en Belgique, le milieu de l'édition du Québec a voulu produire ses propres albums, explorer sa créativité visuelle et littéraire avec originalité et fantaisie. Des maisons d'édition dédiées à la littérature pour enfants, telles les éditions du Tamanoir, aujourd'hui les éditions de la Courte Échelle, ont été créées. Il y a eu une explosion de créativité. Le succès des illustratrices et illustrateurs québécois d'albums pour enfants et de romans graphiques est reconnu de par le monde. Vos albums sont également publiés en anglais et dans plusieurs autres langues aussi. Est-ce que, peu importe le pays, les petits lecteurs reçoivent vos ouvrages de la même façon? J'ai eu la chance que mes livres aient été traduits en une vingtaine de langues, ce qui m'a permis de voyager à l'étranger pour lire aux enfants parfois dans leur langue, en espagnol au Mexique, ou parfois avec une interprète, en Chine par exemple. D'après ce que j'ai pu observer ou entendre, les enfants de tous les pays semblent réagir avec les mêmes émotions, rire et émerveillement, à peu de choses près. Ce qui me plaît immensément, car je tiens à ce que mes images et mes mots soient lus et ressentis de manière universelle autant qu'individuelle. Dans « Où es-tu, Sydney ?», vous faites l'éloge de l'imagination des enfants, ces derniers s'amusant à s'imaginer être un paresseux, une chauve-souris, un singe araignée, etc. Pour écrire des albums jeunesse, doit-on impérativement avoir gardé son cœur d'enfant pour accéder à la magie entourant cette époque? Je crois que oui, et il faut savoir reconnaître cette magie et cet émerveillement dans le monde qui nous entoure. Il faut voir l'univers avec nos yeux d'enfant curieux, étonnés, émerveillés. Ce n'est pas facile ni évident, et ça m'amuse d'entendre les gens me déclarer qu'ils vont écrire un livre pour enfants en un tournement. Vous avez travaillé à quelques albums et à plusieurs romans, chez Boréal, avec votre mari, David Hommel. Est-ce plus difficile de mettre en image le texte d'une personne qu'on connaît si bien, ou au contraire, est-ce plus facile? Comment se déroule une collaboration avec sa tendre moitié? David et moi avons été surpris que ce processus créatif à quatre mains se soit déroulé sans heurts. À l'origine, l'idée était de moi, car je voulais écrire et illustrer un album d'images sur nos voyages en famille. Mais plus j'avançais dans l'écriture et les esquisses, plus le nombre de pages s'allongeait jusqu'au moment où j'ai compris que j'étais en train d'écrire un petit roman. J'en ai parlé à David et il a voulu participer. Nous nous passions donc le manuscrit de l'un à l'autre, ajoutant, ajustant, réécrivant, partageant souvenirs et trouvailles, jusqu'à la fin. Ensuite, je me lançais dans l'illustration des moments forts de l'histoire. Donc, du premier « voyage avec mes parents » jusqu'au tout récent « escapade à Cuba », nous avons écrit 5 livres remplis de nos aventures familiales. Pour moi, ça a été une expérience passionnante et enrichissante. Vous travaillez principalement à l'aquarelle. Pourquoi cette technique en particulier vous plaît-elle autant? L'aquarelle me plaît par sa fluidité, sa légèreté et sa transparence. L'aquarelle s'enrichit en côtoyant d'autres médiums tels que l'acrylique, le collage, le crayon et les encres. Je dessine, je peins et je colle tout à la main. C'est un grand plaisir. C'était Marie-Louise Gay. « Cueillir l'émerveillement des enfants », une entrevue réalisée par José-Anne Paradis, parue le 5 septembre 2023 dans la revue Les Libraires.